Alors, on va peut-être prier. Te remercions, Seigneur, pour ces instants ensemble. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole et, Seigneur, nous les rendre sensibles à ce que tu as à nous dire. Et puis, Seigneur, merci de bénir chacun ici présent et que tout soit, Seigneur, cette parole soit, Seigneur, pour l'avancement de chacun et pour le réchauffement de tous les cœurs. Te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, pour ces instants, on va reprendre quelque chose qu'on connaît bien, la parabole du fils prodigue. Alors, c'est une des paraboles les plus connues, hein, je pense, dans la Bible, dans Luc 15. Et j'avais cette idée-là parce que j'avais toujours ça dans ma tête depuis des années, que la parabole du fils prodigue, c'était un peu la parabole de ma jeunesse. Parce que quand on était adolescent, ben, s'il y a une parabole qu'on retenait bien, c'était quand même celle-là, parce qu'on avait quand même des envies d'indépendance et des envies de partir. Peut-être pas partir, c'est pas le bon mot, mais au moins d'indépendance. Et donc, c'est quelque chose c'est une pensée que j'ai toujours eue. Alors, quand on évoque cette parabole, c'est pour parler principalement du fils. Et puis, c'est bien normal, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, la parabole du fils prodigue. On parle de ce fils qui s'égare, qui est happé par la convoitise de la liberté et de l'indépendance. Pourtant, il est d'une famille qui a une morale, dont la notion de travail et même de richesse, puisqu'il y a des serviteurs, ces notions sont bien indiquées dans cette parabole. Mais on voit aussi et surtout une famille où il y a de l'amour. L'amour du père inonde toute cette histoire. On voit aussi que le fils, par les valeurs chrétiennes qu'il a reçues sûrement, mais surtout par l'amour de son père, dont il n'est pas très bien conscient quand il s'en va, quand il quitte la maison, mais à travers cette valeur du père, cet amour du père, eh bien, on peut dire quand même qu'il a trouvé la force de revenir à la maison. Et on peut dire que c'est l'amour du père qui l'a ramené. Et on va démontrer un peu ça. Alors nous allons donc voir, je vous propose de voir plutôt le rôle du père plutôt que le fils, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé, ou plutôt ce qui anime son cœur. Pour nous, c'est bien au Seigneur, représenté par le Père, que nous pensons, et nous le voyons dans cette parabole, tout l'amour du Père déployé, et c'est à ça que nous allons penser, à l'amour du Seigneur Jésus pour nous. Le Père, là, on ne le voit pas trop dans son autorité, parce qu'il est bien malmené par son fils dans toute l'histoire, mais on le voit plutôt dans son amour. D'ailleurs, nous verrons tellement l'amour du Père, de la part du Père, que nous pourrons dire qu'il avait tout anticipé, même le retour de son fils. Alors, on va la lire, cette parabole, donc Luc 15. Voilà, donc on lit à partir du verset 11. Il dit encore, donc le Seigneur dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apporte la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le, vos gras, et tuerons-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Si le fils décida de rentrer, c'est à cause de son expérience passée. Ce jeune homme connaissait le caractère de son père, qui lui avait donné beaucoup d'amour. Sinon, pourquoi serait-il revenu s'il avait pensé qu'il le battrait, qu'il lui ferait rembourser l'argent gaspillé, ou qu'il devrait s'excuser devant lui et devant son frère? Pourquoi serait-il revenu? Il devait savoir qu'il ne serait pas réprimé, qu'il ne serait pas condamné par ses fautes à son retour. Il songea probablement, « Je sais que mon père m'aime et qu'il ne va pas me couvrir de reproches. Il va accepter de m'accueillir à nouveau. » Cela s'entend dans le texte quand il dit « J'irai vers mon père ». Dans cette phrase, on entend qu'il a déjà de l'assurance et qu'il sait qu'il va pouvoir parler à son père. Alors, voyons comment le père alla au-devant de lui. En faisant bien attention à tous les mots du texte, on ne peut pas soupçonner une seule fois un sentiment négatif de la part du père. Il a sûrement de la souffrance, mais surtout une attente pour pouvoir lui montrer ses sentiments. Le fils avait l'intention de demander pardon. Le texte nous rapporte cette expression qui m'a souvent interpellé, étant rentré en lui-même. Qu'est-ce qui se passe quand il dit « étant rentré en lui-même » Eh bien, il a consulté son cœur, il en a vu l'horreur, et il a pris la mesure de l'amour qu'il avait reçu dans la maison maternelle. Il parle des serviteurs, il parle de tous ceux qui servent son père. Donc, il parle aussi de son père qui a conçu l'amour dans son cœur pour lui. Il dit « j'irai vers mon père, je suis sûr de l'amour pour moi ». Et donc, il prépara sa confession, il prépara ce qu'il allait dire à son père. C'est ce que nous avons besoin de faire de temps à autre pour faire le point sur des situations. Rentrer en nous-mêmes. Pas pour nous morfondre, mais pour nous préparer à aller vers le Seigneur. C'est un temps de préparation. Mais ça peut être aussi pour aller vers celui ou celle dont il nous faut retrouver la confiance ou dont il nous faut retrouver le pardon. Rentrer en nous-mêmes pour repartir dans la bonne direction. C'est un temps précieux à mettre en pratique. Le fils prodigue n'a pas eu le temps d'aller au bout de sa confession. On dirait que le père n'en a rien à faire de ce qu'il lui dit. D'ailleurs, il ne fait pas de commentaire sur ce qu'il dit. Quand l'émotion du père lui permet de parler, ce n'est pas pour dire quelque chose à son fils, c'est pour donner des ordres aux serviteurs. Vite, aller chercher la plus belle robe, etc. Le père était tellement heureux qu'il le couvrit d'honneur. « Je t'aime, mon fils, et je te dis, reprends ta place. Entre et reprends ta place. » Pourquoi le père ne l'a pas laissé parler? Parce que le problème était déjà réglé. Et donc, la question subsidiaire, à quel moment le père a-t-il pardonné son fils? Dès qu'il est parti. Le pardon était déjà dans son cœur quand il a quitté la maison avec la part qui lui revenait. Il n'y avait qu'une condition à ce que le père exprime ce qu'il avait dans le cœur, c'est que le fils se décide de revenir. Et il est revenu pour les raisons qu'on a déjà évoquées, il connaissait la maison et surtout il connaissait son père. Il n'y a qu'une condition à ce que le Seigneur nous pardonne, nous change, nous transforme, c'est de le vouloir et de le demander. Dans des relations des fois troublées, nous nous occupons de savoir comment l'autre réagit, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, comment ça peut se passer pour lui. Eh bien, de savoir comment le Seigneur s'occupera de lui, nous ferions mieux de crier au Seigneur pour notre propre cœur. Car Dieu s'occupe de chacun et il s'occupe de chacun en particulier. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions nous aussi. Son amour est plus grand que nos péchés et son pardon est déjà dans son cœur avant même que nous nous rendions coupables. Ne tardons jamais à revenir à lui pour toute faute, je dirais surtout les petites fautes qui rongent les relations dans les familles, dans les entreprises ou dans l'Église. Des fois, on dit que le temps fait bien les choses, ou que le temps fait les choses. Mais là, le temps ne joue pas en notre faveur. Ce n'est pas un avantage que de faire attendre le Seigneur. Dieu attend avec patience de mettre à exécution ce qu'il a résolu dans son cœur, pardonner. Dans ce que le Père représente, c'est-à-dire l'amour, on peut remarquer que son cœur ne varie pas, qu'il est inconditionnel, et puisqu'il ne varie pas, son cœur a anticipé toute l'histoire, il a même anticipé le pardon pour son fils. Il y a un autre exemple où le Seigneur a anticipé même le pardon. David est l'exemple par excellence de l'homme à qui Dieu manifesta sa bonté alors même qu'il est allé bien trop loin. Vous connaissez les faits et vous savez que David céda à la tentation et commit l'adultère. Il ne s'arrêta pas là, il mentit pour tenter de couvrir son péché, puis se rendit coupable de meurtre. David se comporta en hypocrite. Il méprisa Uri, il déshonora les bénédictions que Dieu lui avait accordées. Mais nous connaissons aussi la fin de l'histoire de David. Il a reçu le plein pardon et il fut restauré, bien qu'il dût subir les conséquences de son péché. On rappelle que Dieu avait fait des promesses à David qu'il le ferait roi, mais il savait aussi par avance son histoire avec Bathsheba. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a banni, destitué, il l'a fait mourir, rien de cela. Il connaissait le cœur de David qui était pour son Seigneur, mais qui était tombé dans la tentation. Alors, le Seigneur n'attendait qu'une chose, c'est qu'il reconnaisse sa faute pour pouvoir lui pardonner. La même question que pour le fils prodigue, à quel moment a-t-il pardonné David? Dès qu'il a eu péché. Dieu a pardonné ce péché immédiatement et a voulu le restaurer parce qu'il savait qu'il reviendrait, parce qu'il savait que c'était son enfant. Je vais vous lire un texte que j'ai, d'ailleurs cette idée-là, je l'ai prise dans un livre de David Wilkerson, c'est un pasteur du siècle dernier, et je vais vous lire ce qui, dans ce thème-là du fils prodigue, ce qui nous donnait comme, ce qui donne comme explication. Il nous dit « Pour nous, Dieu a compté nos larmes même avant que nous les ayons versées. Il nous a pardonné avant même que nous ayons ressenti les premiers tiraillements de notre conscience. » Il a effacé notre péché à peine quelques secondes après que nous l'ayons commis, juste quand notre cœur s'est serré et que nous avons compris que nous avons offensé le Seigneur. Aussi le Seigneur a hâte de nous réconforter, de pardonner, de bénir et d'apporter des bénédictions. Et c'est son cœur qui est comme cela, il est amour. Notre problème est peut-être notre manque de confiance, de foi dans cet amour, et deux fois dans les promesses. Alors, on a souvent parlé de promesses, on y revient encore une fois, aux promesses et à la foi dans les promesses. Et puis, la foi qui lui est agréable, c'est la foi qui croit aux promesses. Alors, on va prendre juste deux versets, puis après, je continuerai le texte. Deux versets dans Psaume 25, pendant les versets 6 et 7. C'est comme notre rôle de rappeler au Seigneur les promesses de sa parole quand nous en avons besoin, quand nous sommes rentrés en nous-mêmes et que nous avons besoin de reparler au Seigneur. Alors, psaume 25, versets 6 et 7, « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Notre Dieu se plaît à récompenser ses enfants et il désire tellement nous inonder de sa bonté qu'il nous bénit même avant l'heure de notre demande de pardon. C'est presque comme s'il était impatient pour attendre notre confession et nos prières, nos demandes, nos supplications, et qu'il nous bénisse avant même que nous ayons ouvert la bouche. Telle est l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Voici l'image que notre Père Céleste veut que nous ayons de lui. Dans sa préscience, il sait, comme pour le Fils prodigue, que nous nous repentirons de nos manquements et de nos péchés. Il sait quand nous lui adresserons nos prières, mais il ne peut attendre. Aussi choisit-il de prendre les devants. Je vais prévenir mes promesses à mon enfant. Je vais lui soigner son cœur et le pardonner. Je veux qu'il sache que je ne le jugerai pas parce que je l'ai déjà pardonné en vertu du sang de Jésus. Alors, je dirais pour conclure, allons à lui dès que nous en avons besoin. Il attend pour mettre en exécution toutes ses promesses qu'il a résolues en son cœur qui est tendre et son cœur qui est un cœur d'amour. Pardonner, libérer, soulager, tels sont les mots que nous pouvons lui apporter et qu'il a déjà prévu toutes les guérisons qu'il faut, le pardon et les guérisons qu'il faut. Et puis rappelons-nous aussi que le temps ne joue pas en notre faveur, le temps d'attente de souffrance de nos cœurs n'est pas en notre faveur, Dieu attend que nous revenions vers lui pour qu'il nous pardonne, qu'il nous libère et qu'il nous soulage.